Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus, 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. Aujourd'hui, eh bien, c'est quoi de neuf, donc, comme chaque mercredi, entre 16h et 18h. On est en direct aujourd'hui, contrairement à d'autres mercredis. Ce n'est pas toujours facile pour les gens qui font de la radio. Pas du tout facile non plus pour ceux qui font du théâtre. On va en parler dans quelques instants avec Simon Capel qui nous a rejoint. Bonjour Simon.
Bonjour René.
Alors donc, bien malgré tout pour votre compagnie, on peut rappeler hein, Zone Poème, le travail continue, la création, je veux dire les créations s'enchaînent, on peut dire ça comme ça ?
Oui, en fait, depuis le début de la saison, il y a encore la possibilité de répéter dans les salles, de travailler. Et du coup, on essaye de maintenir le plus possible le programme qu'on avait mis en place cette saison autour de deux créations principales. L'une qui s'appelle Barbare et qui est en fait un projet qui existe depuis un moment, et puis une qui arrive là la semaine prochaine qui s'appelle Oracle et qui est en fait une reprise d'un spectacle d'il y a plusieurs années, et ça montre à quel point en fait le spectacle vivant il s'inscrit dans des durées qui dépassent celle de la saison, qui dépassent celle de la période même qu'on est en train de vivre, et que c'est du coup une vraie réflexion sur le temps en fait qu'on est en train de subir aujourd'hui.
Alors, au-delà de ce que voient les spectateurs, il y a cette partie création, ce serait bien d'en parler. C'est un petit peu, pour moi, comme un labo de recherche, d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. La douleur actuelle, c'est de ne pas avoir de rencontre avec le public. Et en fait, en n'ayant pas de rencontre avec le public, c'est presque comme si ce qu'on faisait n'existait pas tout à fait, puisque le théâtre, ce n'est pas simplement un objet qui existe et puis qu'on montre à un moment donné, mais en réalité il n'existe seulement que parce qu'on le montre et qu'on le partage. Donc on vit dans une espèce d'entre-deux où on essaye de continuer à préparer, on ne sait pas forcément pour quand ni dans quelles conditions, mais on essaye de faire en sorte que notre pratique, notre recherche, parce qu'en réalité ce sont des recherches que chaque artiste mène semaine après semaine, mois après mois, année après année, on essaie qu'elle reste le plus vivante possible pour être en réalité toujours en prise avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui et de pas s'arrêter.
Donc j'ai pu suivre un peu votre travail avec une présentation qui a eu lieu cet été dernier à la Rose des Vents, si ma mémoire est bonne, et puis là au Viva d'Armentières. Donc, autour de Barbare, hein, c'est le grand titre. Alors après, vous avez des zones, peut-être. Peux-tu préciser un petit peu cette
question? Oui, c'est une coquetterie, pardon. La compagnie s'appelle Zone, et donc chacun des territoires qu'on ouvre, des créations qu'on ouvre, porte un numéro qui est lié à cette zone-là. Donc là, Barbare, celui que tu évoques, c'est le zone 14. Et Barbare, c'est un projet assez énorme, en fait, puisque c'est 28 épisodes de 20 minutes qui portent chacun le titre d'un des pays de l'Union européenne, et avec l'ambition d'essayer de s'intéresser à la question de la barbarie en opposition à celle de la culture, de voir comment ces deux notions-là se confrontent, et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le barbare aujourd'hui, qui est-ce que on considère comme un étranger en Union européenne. Donc c'est aussi un questionnement sur l'identité qu'on peut porter, l'identité qu'on peut construire ou déconstruire, et comment est-ce qu'on accepte l'autre dans cette identité-là. Et donc ça, c'est un projet qui existe depuis 2 ans, qui a d'abord été porté grâce à l'accompagnement de la Rose des Vents, et qui a vu une espèce de... C'est pas une espèce, mais c'est une première représentation de quelques épisodes au Vivat le mois dernier, mais en l'absence de public, avec uniquement des professionnels du spectacle vivant. Et donc c'est un moment extrêmement important intimement, puisqu'on a besoin en fait de pouvoir à un moment donné jouer les choses. Les mettre en question frontalement, les mettre en question directement. Mais on attend encore, en fait, que se produise cette rencontre qui, pour l'instant, ne peut pas se produire.
Donc, Barbare, je ne sais pas si on peut dire que c'est un projet européen. Est-ce que vous avez des financements de l'Europe pour le réaliser ?
Directement, non. On est soutenu par l'Institut français. Donc ça permet un certain nombre de déplacements, puisque le processus, c'est d'aller d'abord dans chacun de ces pays, et puis ensuite de revenir en France, et en France, de créer chacun des épisodes liés à ces pays-là. Et toute l'ambition, c'est d'essayer le plus possible de retourner ensuite dans ces pays avec les différentes formes qu'on aura élaborées, et de les confronter aussi à la manière dont les populations dans les autres pays peuvent percevoir même les Français, en réalité, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autoportrait de l'artiste français, puisque nous sommes français en majorité dans la compagnie, en train de regarder ce qu'il est en train de construire. Et donc, on espère qu'on pourra jouer ces différents épisodes aussi dans les 28, maintenant 27 pays de l'Union européenne.
Donc c'est un projet très ambitieux. Il suppose parfois d'aller sur place dans certains de ces pays pour mieux vous inspirer un peu de la culture locale, on peut dire ça comme ça, mais aussi de l'histoire. C'est important pour vous, l'histoire ?
Oui, on a choisi l'Union européenne en tant qu'entité politique parce que c'est tout d'un coup un moment précis de l'histoire, en fait, et en particulier l'histoire du XXe siècle, qui est une espèce de décision comme ça collective à un moment donné de construire quelque chose sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a forcément dans notre travail un intérêt, une sensibilité très forte pour les histoires des différents pays à la rencontre desquels on va, et d'autant plus que on découvre au fur et à mesure que la perception peut-être un peu fondatrice ou centrée autour de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Union européenne, elle n'est pas du tout partagée par l'ensemble des pays, et que chacun de ces pays a une relation très particulière en réalité à l'histoire. Et c'est aussi ça qu'on essaye de découvrir, comment est-ce que les autres voient ce qu'on croit être notre propre histoire, ce qu'on croit nous appartenir, et qui en réalité, et si on se décale un peu, est tout de suite vu autrement et vu différemment. L'histoire du bloc de l'Est, c'est pas du tout la même que l'histoire de la France.
Donc la manière dont vous en emparez n'est pas du tout édulcorée, hein. On peut dire que ça rentre franchement dans les blessures de l'histoire et les cicatrices aussi.
Oui, ça c'est sûr que ça fait partie de l'ADN un peu de notre compagnie, de s'attaquer plutôt à ce qui est de l'ordre du conflit, quel que soit l'endroit de conflit qui puisse exister, et à essayer de comprendre comment est-ce que les formes culturelles, hein, théâtre ou autre, hein, puisqu'on utilise différentes formes d'art au sein de la compagnie, comment est-ce que ça peut contribuer d'une manière ou d'une autre à... pas forcément simplement à réparer, parce que bon, on n'a pas non plus d'action miraculeuse, quoi, à l'intérieur d'une représentation, mais comment est-ce qu'on peut adresser ces blessures-là, et comment est-ce qu'on peut essayer de sensibiliser, en fait, ces choses-là. C'est pas du tout un travail intellectuel en réalité. C'est pas de délivrer une histoire, c'est pas notre métier en tant qu'artiste, mais c'est d'essayer de faire en sorte que on puisse créer une expérience collective, et que cette expérience collective, dans le temps de la représentation, dans le temps partagé dans une salle, et c'est pour ça que le public est tellement fondamental, cette expérience-là, elle puisse reposer les questions à l'intérieur même d'une communauté, en fait.
Donc, vous travaillez souvent ensemble, Mélodie Lasselin, et donc toi, hein, Simon Capel. Vous avez chacun votre domaine, mais on va dire... de domaines qui s'épousent, en l'occurrence, au travers de ces spectacles. Et vous avez aussi d'autres personnes qui interviennent. Je pense notamment à un brillant musicien sur scène. Et puis aussi des gens qui font de la vidéo, etc. C'est un spectacle, enfin, Barbare, un projet très complet en termes artistiques.
Oui, l'équipe de Barbare, c'est ça, c'est Mélodie et moi. Donc plutôt théâtre et danse, hein, s'il faut catégoriser. C'est plutôt ça, nos parcours. Et puis il y a deux musiciens, hein, qui est plutôt... spécialisé en musique électronique, pour aller vite, et puis l'autre qui est beaucoup plus sensible à ce qui est acoustique et même spatial, qui est aussi une forme de plasticien du son, quoi, et aussi une photographe et aussi un vidéaste. Et même cette équipe-là, elle a vocation à s'agrandir, puisque au fur et à mesure des épisodes, on a le désir pour chacun de ces épisodes d'explorer de nouvelles disciplines, de nouvelles formes artistique, de nous-mêmes nous déplacer. En réalité, c'est ça le travail. Et donc, on va aussi à la rencontre de possibilités d'expression artistique possible, quoi, pour contribuer à cette communauté artistique qu'on essaye de créer, puisque la compagnie est aussi assez jeune. Donc, il y a aussi ce désir-là de poser les bases avec ce geste un peu long dans le temps avec Barbare d'une compagnie qui s'inscrit pas simplement sur le plateau, mais qui essaye de toucher le plus possible aux formes d'art de manière générale.
Alors chaque pièce de cet ensemble de 28 épisodes a sa propre logique, symbolique aussi. C'est pas toujours facile pour le public qui n'est pas averti de comprendre ce qui se rattache à la symbolique ou à l'imaginaire ou à une réalité. Néanmoins, il y a quelques points d'appui peut-être.
En fait, chaque épisode donc prend une forme d'art particulière. Donc ça peut être le solo chorégraphique, ça peut être le concert de musique, ça peut être même l'installation vidéo. Il y en a une actuellement qui est en autonomie, comme ça, l'épisode Danemark dans le hall du théâtre de l'Oiseau-Mouche. Et puis, une ligne particulière, une thématique particulière, s'il faut utiliser ce mot-là. Et ça, pour chaque épisode, c'est complètement différent. Et ces portes d'entrée-là, on essaye de les rendre les plus vives possibles. Donc, c'est pas simplement de l'ordre de la compréhension ou de l'intellection de ce qui se passe sur le plateau, mais c'est aussi de l'ordre des enjeux physiques réels avec lesquels le spectateur va être sollicité, confronté. Et pour nous, le travail de compréhension, il doit toujours se faire dans un second temps, pas simplement au sein de la représentation elle-même, mais il peut se faire ensuite. Donc on donne aussi un livret de salle qui est un petit texte traduit dans la langue du pays en question et puis en français pour chacun des épisodes et qui soit aussi une espèce de piste pour continuer à s'intéresser en réalité à ce dont il a été question dans chacun de ces épisodes.
Donc on peut imaginer que la tournée à venir ne pourra pas, à chaque lieu, du moins le même jour, présenter l'ensemble des 28 pièces qui seront créées à la fin. Comment se fait la sélection des éléments ?
Oui, ça c'était, je crois que c'est une des choses qui a même déclenché la création à l'origine, c'était le désir de pouvoir, à chaque représentation, construire une forme, un spectacle à partir de différents épisodes qui soient à chaque fois complètement neufs. Donc c'est dans un certain sens la première un peu à huis clos qu'on a faite le mois dernier. Elle va pas se reproduire. Les prochaines représentations prévues de Barbare, que ce soit à l'Oiseau-Mouche ou à l'Attitude Contemporaine ou la saison prochaine à Paris et à Nancy, à chaque fois elle manipule de nouveaux épisodes qu'elle recombine d'une nouvelle manière pour essayer que la confrontation en fait de ces différents fragments produise à chaque fois quelque chose de neuf et d'original pour le public. Et ça, c'est vraiment l'ambition en fait de continuer à trouver une forme de liberté dans la création et aussi d'agrandir les possibilités de dialogue avec les lieux qui nous accueillent, avec les directeurs et les directrices qui nous accueillent, et que ce ne soit pas simplement en réalité une marchandise qu'on puisse voir, décider d'acheter, et puis qu'on met dans un lieu et qu'on vient regarder, mais qu'il y ait une vraie collaboration dans le temps qui puisse exister. Et par exemple, cette saison avec le Théâtre de l'Oiseau-Mouche, dont Mélodie et moi sommes artistes associés, c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. C'est une conception ensemble du choix des épisodes et de la manière dont on va les présenter. Et pareil avec le Festival d'Attitude Contemporaine, puisqu'il a une thématique précise chaque année. On a discuté vraiment artistiquement avec Maria Carmela Mini, sa directrice, pour choisir quels épisodes étaient les plus à même de rentrer en dialogue avec le reste de sa programmation.
Donc, effectivement, il y a cette possibilité multiple, enfin, c'est infini presque, de combinaison, de choix de deux, trois pièces pour créer une soirée, un spectacle, en fait. Il y a aussi comment vous arrivez à assembler des parties, enfin, des parties, des épisodes, on va appeler ça comme vous le dites, qui soit possible pour vous en termes de performance, parce qu'il y a des moments qui sont physiquement très durs.
Oui, oui, bien sûr, c'est une réflexion au sein de l'équipe aussi, sur des choses qui sont vraiment... tu parlais de recherche tout à l'heure et de création, c'est vraiment le cœur de notre travail en fait, c'est de comprendre des questions de... des enjeux d'espace, de rythme, de gestion de la distribution aussi, puisque toutes les personnes qui travaillent sur cette création sont présentes sur le plateau. Et suivant les épisodes, elles ont des rôles complètement différents et qu'on essaie d'être le plus ouvert, le plus poreux possible, que le créateur sonore puisse, dans un épisode, dire du texte ou devenir créateur lumière dans un autre. Enfin, donc ça, c'est vraiment une réflexion collective de comment agencer les épisodes ensemble pour qu'on ait le plus possible la sensation global du travail qu'on mène sur les 28, puisque notre désir absolu, c'est pas forcément de jouer les 28 en une fois, même si peut-être qu'un jour ça se produira et que ce sera une espèce d'apothéose du projet, mais d'essayer à chaque nouvelle représentation quand même de témoigner de ce travail global qu'on mène tous ensemble et qui est extrêmement vaste, hein, puisque 28 épisodes à la fin, ça représentera 9h20 de temps de représentation, donc c'est quand même plusieurs spectacles en un quasiment, et c'est de ça dont il faut qu'on arrive à donner la sensation aussi au public que ce qu'il voit sur le plateau dans un temps donné, pendant une heure, c'est pas simplement un produit ou un objet qui a été conçu pour ce temps-là et pour lui, mais c'est aussi le témoignage et la trace d'une recherche artistique beaucoup plus vaste et qui est l'engagement de la vie de chacun des artistes qui est sur le plateau. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de retrouver comme relation avec les spectateurs et les spectatrices qui sont dans la salle, c'est d'essayer de faire sentir que ce qu'on fait, en réalité, c'est un travail, c'est un métier sur le temps long, et que ce qu'on vient voir sur un plateau, c'est un temps donné de ce travail-là.
Donc, Simon Capel, il y a sur scène, pour le public, à vous entendre, il y a à voir aussi, et des images qui sont puissantes, fortes, qui restent à l'esprit.
Oui. On essaye d'aller au nerf des choses, en fait, et d'engager physiquement tous les moyens qui sont à notre disposition, nos corps, nos souffles, nos voix, toutes nos sensations, en fait. C'est vraiment là le travail de la compagnie, de manière générale, il est comme ça, c'est-à-dire que c'est une implication des corps dans le réel, les sensations des corps dans le réel, au contact de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre du monde. D'essayer de retransmettre ça le plus directement, le plus frontalement possible sur un plateau. Moi, je crois plutôt au conflit, à la crise sur un plateau et à la possibilité de remettre le doigt sur des nœuds et de confronter le public à ces nœuds-là, parce que c'est pas à nous artistes à décider quoi que ce soit ou à émettre des avis sur quoi que ce soit, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de repointer des choses sur lesquelles ensuite... chacun des citoyens et des citoyennes qui sont dans la salle vont avoir à penser, vont avoir à réfléchir et vont avoir à s'exprimer, même, puisque c'est ça les enjeux. Quoi. Le théâtre reste, en tout cas en Occident, reste un outil politique majeur.
Donc j'entendais dans tes propos frontalement, mais parfois ça peut être bifrontal aussi.
Oui, ouais, on essaie aussi de manipuler les formes et de... parce que pareil, ça tient des mêmes convictions, c'est-à-dire la conviction que le théâtre en tant que moment de construction d'image et de représentation, hein, donc c'est un mot que j'emploie aussi pour parler de la danse ou de la musique ou de plein de formes d'art, c'est quelque chose qui se produit en présence de corps dans un espace, c'est une relation au temps et à l'espace, et donc peu importe que ce soit en frontal ou en bifrontal, en quadrifrontal ou... moi, je pense même que le théâtre, il peut exister juste avec une personne comme ça, à un moment donné, dans la rue, et qui pose un geste, en fait, et qui crée une relation particulière au temps et à l'espace pour les personnes qui sont là à ce moment-là. Donc, on essaye que tous ces paramètres, toutes ces variantes soient manipulées le plus possible dans chacune des formes qu'on propose, que ce soit pour Barbare, que ce soit pour tout ce qu'on peut essayer de faire avec cette compagnie.
Je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais parfois j'imagine que tes racines culturelles sont très anciennes et de l'ordre peut-être du théâtre grec. Et je ressens ça notamment, hein, dans une des pièces que j'ai vues là, où tu installes un cercle, hein, et dans lequel après vous affrontez, confrontez, et qui est à la fois un vrai temps de d'installation, de préparation, pour créer un espace, un environnement qui vous permette voilà, d'être comme dans une arène, en quelque sorte.
Oui, c'est l'épisode qui concerne le pays Grèce. Oui, moi j'ai une formation qu'on appelait à l'époque Humanité, c'est une licence de lettres classiques où j'ai étudié des langues anciennes, et c'est vrai que c'est très présent dans ma culture personnelle, mais c'était surtout à travers cet épisode et au sein de cette création, essayer d'interroger cette chose qui a existé à un moment donné, puisque le mot barbare a été inventé par les Grecs en réalité. Il a été inventé pour désigner une peuplade de Turquie et pour désigner le fait qu'on ne comprenait pas leur langue et que du coup ça sonnait barbare. Et barbare, c'est juste la répétition de deux syllabes pour désigner quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait. Et ça m'a beaucoup interrogé en fait, de me dire qu'une partie de notre civilisation dont on vante les mérites, c'est-à-dire la démocratie, la philosophie et toutes les formes intellectuelles qui se sont développées à cette époque-là, se sont aussi bâties en rejet d'un certain nombre d'autres formes, d'un certain nombre d'autres populations. Il y avait des esclaves hein, en Grèce antique et on pourrait longuement parler de la question de la place de la femme à cette époque-là aussi. Tout ça, j'ai voulu que ça existe aussi dans cette création, de montrer que notre civilisation gréco-latine, occidentale, elle s'est aussi construite énormément sur la notion du conflit et sur ce que ça pouvait produire, en fait, sur les corps. Donc il y a cette scène de lutte au plateau qui existe à un moment donné pour essayer de rendre compte physiquement de ce que ça représente que de rejeter l'autre, en fait.
Donc tu parlais d'esclaves, effectivement, il fut un temps hein, où il y avait des esclaves partout dans le monde, on va dire. C'était pas l'apanage d'un pays ou même d'une civilisation. Je pense qu'on peut dire que ça a été un moment de fonctionnement de beaucoup de sociétés anciennes. Qu'est-ce qui pourrait actuellement ressembler à de l'esclavage s'il fallait faire une transposition pour toi?
Si je regarde juste la France... ils sont à vélo tous les soirs de couvre-feu, quoi. Il suffit de regarder ça. Je pense que le système économique capitaliste, en tout cas tel que je le perçois et tel que je le ressens, a construit des subtilités dans les formes d'esclavage possibles. Et peut-être que maintenant, les formes les plus frontales et les plus directes, elles sont cachées ou elles sont aussi repoussées au-delà de nos frontières. Hein. Il y a des formes d'esclavage qui existent pour permettre que nos besoins à nous ici en France soient, qu'on puisse y subvenir, quoi. Il y avait un certain nombre de pratiques qui existent, mais comment dire, il y a aussi des formes d'esclavage beaucoup plus sournoises et beaucoup plus qui ont l'air de prendre l'apparence d'une forme de travail, mais qui est une forme de travail qui réduit les gens à des modalités d'existence qui sont pas tenables, qui sont pas défendables du tout. Donc en ce sens-là, moi, je dirais pas que c'est quelque chose qui a disparu de la planète ou même de notre pays.
Donc, pour résumer, on vit dans une société où, actuellement, hein, je parle de cette année qui est assez particulière, l'homme est reconnu uniquement pour sa force de travail et pas pour sa capacité au plaisir ou au désir.
Oui, c'est même... Là, ça va nous emmener sur des choses plus en lien avec la culture et la place que ça peut prendre. Mais en fait, moi, j'ai du mal à opposer des notions comme celles de simple plaisir, de simple désir ou juste de besoin. En fait, parce que je crois que ça ne se situe pas tout à fait à cet endroit-là. Je crois que être vivant, être... exister, en fait, c'est convoquer des forces qui sont en nous, qui... en réalité, appartiennent toutes à ce qu'on pourrait appeler du désir, c'est-à-dire quand on a faim, quand on a soif, quand on a besoin du contact des autres. Et c'est pas le contact des autres, c'est pas juste se retrouver pour boire un verre ensemble, mais c'est vraiment un contact de partager le temps et l'espace ensemble. Ça, pour moi, c'est de l'ordre du besoin, en fait. C'est quelque chose d'absolument vital. C'est pas quelque chose qu'on peut déterminer comme étant appartenant à une certaine catégorie d'existence et puis l'autre qui serait plus fonctionnelle et plus indispensable parce qu'elle permettrait la survie économique d'un système qui en réalité survit très bien. Enfin, on voit bien qu'il continue à tourner sans aucune difficulté. Donc c'est plutôt une interrogation, à mon sens, beaucoup plus vaste et qui dépasse peut-être même simplement le cadre de la crise qu'on traverse actuellement, parce qu'elle est aussi le symptôme d'un certain nombre de choses, qu'est-ce qui nous maintient en vie, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant ensemble et qu'est-ce que ça peut représenter. Et je crois que le théâtre, la scène, dès le départ, avait pour vocation de convoquer ça, de convoquer ces questions, pour le coup, presque philosophique, mais dans le sens pratique de la philosophie, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de faire de nos existences collectivement, jour après jour, ensemble.
Donc les temps sont très compliqués pour l'art vivant, pour les arts de la scène, etc. Est-ce que cette traversée du désert, du point de vue du public, pour vous, hein, est-ce que c'est quelque chose dont on peut se remettre? Et combien de temps faudrait-il, pour remettre les choses en route, retrouver un niveau de mise en phase avec un public qui a un peu, déserté d'une certaine manière? Est-ce que vous ressentez encore, en tant que compagnie, des envies de ce public que vous aviez et qui est un peu éloigné actuellement? Et comment recréer, remettre la flamme en fonction et pas en veilleuse, quoi?
Déjà, je pense qu'il faut peut-être commencer par dire, parce que c'est important de le verbaliser et de mettre les mots, que l'année qu'on a connue là, si je parle uniquement du secteur qui est celui de ma profession, hein, je connais pas... J'ai pas forcément traversé les autres secteurs, mais j'imagine que c'est évidemment pas un cas unique, mais c'est un désastre. Enfin, il faut le dire tel que c'est. On peut pas imaginer que la culture puisse exister avec simplement ceux qui la font et puis le reste de la population qui a pas le droit d'y avoir accès. Enfin, je veux dire, ça a aucun sens. Il y a pas de culture qui existe sans que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelque chose qui se passe depuis quelques jours. Dans un certain nombre de salles, de scènes, de théâtres en France, qui est un mouvement qui, à mon avis, doit générer une forme d'espoir et de joie immense. Enfin, tout d'un coup, se rendre compte que des étudiants, des artistes, des chômeurs, des travailleurs précaires occupent des lieux dans le seul but de réfléchir à comment construire un monde qui ne soit pas le monde désastreux qu'on a connu depuis un an, et qui ne soit pas non plus le monde peut-être un peu moins désastreux, mais qui déjà donnait des signes de faiblesse intense qu'on a connu il y a un an en arrière. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de courage à avoir, beaucoup d'espoir à avoir dans ce qui est en train de se manifester aujourd'hui en France. Et moi, je crois profondément qu'on peut inventer des formes de relations collectives, parce que c'est pas simplement les artistes envers le public, mais c'est des relations collectives qui soient vraiment différentes de ce qu'on a connu jusque-là. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait: mettez un piquet au milieu d'une place et faites danser les gens autour, et voilà, vous l'avez, le théâtre, en réalité. C'est pas plus compliqué qu'un rituel collectif qui vient répondre à un moment donné à un besoin collectif de poser des questions ensemble, de partager des sensations ensemble, et en réalité de faire communauté autrement que sous des régimes d'utilisation, de production, de consommation. Et ça, moi, je vois pas comment ça peut disparaître de l'être humain, en fait, ce désir puissant de vivre.
Donc là, on est presque à une année de fermeture des lieux de spectacle. On peut dire qu'il y avait peut-être, sans doute, une nécessité de santé publique, hein, à trouver au départ des mesures assez radicales. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, entre-temps, une certaine forme d'intelligence à mettre en œuvre pour trouver des formes, des modes de réalisation, de présentation de spectacles qui soit adapté à un contexte à déterminer? On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il y a eu des concertations par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu des essais, des expériences qui ont pu peut-être être par la suite qui pourraient être pérennisées ou qui pourraient être développées.
Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de compagnies qui ont tenté d'une manière ou d'une autre d'essayer de continuer à maintenir ce lien, cette forme d'existence particulière qu'est la culture, qu'est l'art, mais autant il y a eu vraiment un effroi et une stupéfaction quand est arrivé le premier confinement et une prise de conscience et de responsabilité générale qu'on ne peut que saluer, quoi, et puis d'accompagnement de ce que collectivement on était en train de vivre. Autant, depuis septembre, en réalité, ce qui se produit, c'est qu'à la fois, il y a des mesures sanitaires et restrictives qui sont mises en place, mais en même temps, il y a une absolue urgence et nécessité pour les artistes d'essayer de continuer toujours à être prêts à ce que ça reprenne, alors même que depuis des mois et des mois, ça ne reprend pas et qu'il n'y a aucune autre forme de modalité d'existence de la culture qui est proposée, qui est mise en place par le gouvernement. Donc, la plupart des artistes se sont retrouvés, jusqu'à ce saisissement qui a lieu là depuis quelques jours, mais se sont retrouvés à la fois en train d'essayer de faire en sorte que des choses puissent encore parvenir à l'ensemble de la population et en même temps des tentatives de survie qui étaient même de la survie propre et individuelle, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, il faut le dire, hein. Moi, j'aurais adoré que le gouvernement nous propose pendant plusieurs mois de suspendre les choses et nous donne les moyens de réfléchir vraiment collectivement, en mettant les choses sur la table, au dysfonctionnement des modèles actuels de production, de réalisation, de spectacle, et nous laisse le temps de construire d'autres possibles. Mais j'ai pas la sensation que ce soit un de leurs objectifs. J'ai même la sensation vraiment inverse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de tentatives singulières et particulières qui ont eu lieu avec les outils du bord, avec les moyens du bord, mais qu'il y a rien qui peut prendre une ampleur au point d'être généralisé parce qu'on a dû survivre et qu'on nous a pas laissé la possibilité de repenser notre création.
C'est Roselyne Bachelot qui a repris en main ce qui restait de la culture à un moment donné. C'est évidemment pas une tâche facile pour elle. Elle sait quand même ce que c'est qu'un spectacle. Elle est déjà allée voir des spectacles avant ça. Pour autant, qu'est-ce qui existe comme espace de dialogue, par exemple, vous en tant que compagnie, en quoi vous êtes associé à une réflexion? Quand je dis compagnie, ça peut être aussi les salles qui vous accueillent et qui vous permettent de travailler.
Alors, bon, évidemment, il y a des choses qu'on mène individuellement. Et puis même au sein de la compagnie, dès sa création, on avait décidé que la question de la réflexion sur ce qu'on faisait, au-delà de toute production d'un objet artistique, devrait exister, devrait être aussi centrale que la création elle-même. Donc ça a existé. Et puis avec des amis, on a beaucoup échangé sur ces questions-là depuis un an. Très concrètement, avec une autre compagnie de la région, la compagnie Superama, et deux structures de la région, le gymnase et le théâtre de l'Oiseau-Mouche, on va mettre en place à la fin du mois 5 jours de laboratoire expérimental avec une vingtaine d'artistes de la région et dont l'unique objectif est de ne pas avoir d'objectif défini, de ne pas avoir de produit final et d'aboutissements préconçus, mais de poser ensemble un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, et d'essayer, au travers de nos pratiques, au travers de nos disciplines, d'y répondre et de pouvoir ensuite partager ces réflexions au-delà de ces 5 jours. Donc ça, c'est une possibilité, mais ce temps-là, 5 jours, c'est déjà extrêmement court, c'est très fort de pouvoir le faire en ce moment, mais... C'est quelque chose qu'il va falloir développer et dans lequel il va falloir que l'ensemble des acteurs et des partenaires culturels s'impliquent profondément.
Alors, si on compare avec la radio, hein, actuellement, bon, nous, on est ici en direct aujourd'hui, ce n'a pas toujours été le cas. Et on a, par exemple, la matinale, hein, tous les jours à 7h. Pendant un bon mois, c'était des matinales qui étaient enregistrées. Donc, chose qui nous avait surpris au départ, puisqu'au départ, on, On n'était pas préparé à ça. Il y a un an, on est passé assez vite en mode production avant de revenir à des périodes de direct, comme on le fait aujourd'hui. Donc pour les élèves de l'Académie EJ qui font cette matinale tous les jours, du lundi au samedi, c'est un double exercice. Hein, le premier en termes de réalisation de production qui sont diffusées dans les jours qui suivent. Et puis aussi le direct. Donc je fais un peu l'analogie avec la scène en direct pour vous. Et donc, nous, on a expérimenté deux formes très différentes et un autre rapport vraiment au public, avec toujours conscience de qui était notre public, du moins tel qu'on pressentait. Est-ce que de votre côté, vous avez tenté de nouvelles formes d'approche du public au travers, alors pas le direct, pas la scène, mais des modes de production, par exemple, d'enregistrement et de présentation sous d'autres formes?
En fait, on s'est plutôt... Après le premier confinement, on s'est tourné vers l'espace public. Il y a eu à un moment donné une performance qu'on a réalisée dans l'espace public et qui était participative dans le sens où elle dépendait uniquement des gens qui voulaient participer. Et plus il y avait de gens qui participaient, plus elle durait longtemps. Et elle a duré 36 heures à Lille, donc elle a duré même la nuit. Et puis ensuite, elle a été exportée dans d'autres villes parce que le protocole était tellement simple que n'importe qui pouvait se l'approprier. Et pour moi, c'est aussi ça, une forme de culture, quoi. C'est un objet qui n'a pas d'auteur ou d'autrice ou de créateur, de créatrice fixe, mais qui appartient à tout le monde. Ensuite, y a une question qui s'est beaucoup développée, qui était déjà présente, mais qui a pris de l'ampleur globalement dans la société, en particulier dans le spectacle vivant, c'est évidemment la question du numérique et de la captation, la diffusion de ces captations. Pour moi, c'est une question extrêmement difficile, extrêmement problématique. Là, la semaine prochaine, il va y avoir la première... du solo oracle de Mélodie, et il va y avoir une captation qui va être faite, et cette captation elle va être ensuite une semaine après mise en ligne, et mise en ligne pendant une semaine par le gymnase, qui est aussi un lieu qui a été extrêmement touché en fait par ce qui s'est passé, parce qu'eux fonctionnent sous la forme de festival, et leur festival l'an dernier a dû être annulé, ils en ont un autre à l'automne qui a dû aussi être annulé, et là de nouveau ils devaient annuler celui-là, et donc ils ont trouvé cette option-là, quoi, d'essayer de mettre cette captation-là entre les mains du public. Pour moi, c'est une question extrêmement problématique parce que moi, je crois beaucoup à la peau, en fait. Je crois à la sensation de la peau et à la sensation de la peau du public et la mienne, et comment, dans un même espace, ça peut vibrer ensemble et ça peut sentir des choses ensemble, et que ça, un écran, il le permet pas. Donc... diffuser une captation, je crois que ça coupe beaucoup de choses. Il est probable que ça en permette aussi d'autres, des échanges en direct autour de ce que les gens sont en train de voir. Enfin, c'est des formes de survie qui sont vraiment compliquées pour tout le monde, quoi. J'espère qu'on va dans le futur, en inventer d'autres qui se passeront le plus possible des écrans pour que l'ensemble du public puisse retrouver un lien direct avec la création. Là, on est dans un intermédiaire qui est douloureux pour tout le monde.
On avait essayé à Radio Campus de proposer à des scènes financées, hein, donc des scènes avec des financements publics, de continuer à travailler, notamment en réalisant des productions radiophoniques, théâtre radiophonique. Ça n'a pas été suivi. Est-ce que il y a des blocages qui tiennent à des problèmes d'éthique ou des problèmes de vision artistique, de projet, de maison aussi, de projet de maison? Ou est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas eu là une possibilité intéressante, nouvelle, d'avancer vers des voies occasionnelles, pas forcément durables, hein, mais où on saisit peut-être une opportunité?
Ben, en fait, à partir du moment où il y a une nécessité, où il y a un enjeu artistique, moi je pense que la question de la forme, elle peut devenir secondaire. Donc, moi je voue une vraie passion pour la radio et pour ce que le son seul peut produire, entre guillemets, même si évidemment que c'est pas du son seul, parce qu'il y a un imaginaire qui se déploie autour du son quand on écoute. Pour moi, à partir du moment où il y a une ambition de construire quelque chose avec des gens et de le partager de cette manière-là. Enfin, toutes les tentatives sont extrêmement légitimes et les émissions, le théâtre radiophonique ou les lectures ou les podcasts, ou c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qui peut être amené à se développer. Il y a même dans le passé eu des spectacles qui se concevaient comme des émissions de radio, comme des podcasts qu'on allait pouvoir ensuite écouter. Enfin, la question du format, pour moi, elle est jamais première. Elle est toujours en lien avec ce qu'on cherche à en faire exactement. Donc, il n'y a pas d'interdiction ou d'impossibilité d'exploration.
Alors, nous, la semaine prochaine, on va tenter une chose. Hein. C'est avec des gens qui, d'habitude, font un festival à cette époque-ci, le festival d'ailleurs et d'à côté, je ne sais pas si tu vois.
Oui.
En fait, on va regrouper des artistes, des comédiens, des metteurs en scène, peut-être des écrivains de théâtre aussi, hein, à se présenter, soit par présenter des parties de ce qu'ils avaient l'intention de présenter sur scène, dans une bonne heure d'émission qu'on est en train de programmer. Donc je ne dis pas que ce sera l'équivalent du théâtre, ce sera une forme sans doute radiophonique, d'essais, d'expérimentation pour voir ce qu'il est encore possible de faire dans des périodes de contraintes comme celles qu'on vit. Bien sûr, l'idée étant d'arriver vite à trouver des modes de présentation et de représentation qui soient acceptables, tant pour la santé publique, pour les conditions des spectateurs et des gens qui produisent, qui réalisent les spectacles. Je pense quand même que on peut imaginer, et moi j'ai vu des spectacles il y a 6 mois où il y avait une vraie sécurité dans les lieux de spectacle, enfin, il y avait une vraie prise en compte des problématiques. Je suis allé au Grand Bleu ou peu importe, enfin, je veux dire, j'ai vu des précautions infinies pour l'accueil des spectateurs et le respect des gestes barrières, etc. Je vois vraiment pas qu'il y ait eu de cluster spécifique dans ces lieux-là, donc est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à une forme de raison évaluer des situations physiques pour voir aussi les réelles possibilités et pas seulement des théories dictées verticalement?
C'est exactement ce qui est sur la table actuellement. C'est ce que propose un certain nombre de syndicats. C'est même ce que propose une grande majorité des directions de lieux de la culture en France. C'est-à-dire qu'en fait, des protocoles de reprise, ils existent. Ils ont été élaborés même par ceux qui doivent les mettre en application et pour lesquels c'est aussi du travail et des efforts que de tenter la reprise, de remettre les choses. La réalité concrète, c'est que depuis plusieurs mois, il n'y a absolument aucune réponse sur ces questions-là. Aucune même validation de protocole de reprise qui serait possible. Et ça, c'est un manquement dont j'espère que les mois prochains vont montrer à quel point il est insensé. Enfin, je veux dire, on peut pas laisser des gens comme ça proposer, inventer, construire de nouvelles possibilités pour la culture d'exister et de retrouver un lien avec le public. On peut pas les laisser dans un silence et un effroi. On peut pas simplement se contenter de venir pendant une heure, de gribouiller quelques mots sur un cahier, puis de repartir en disant on va y réfléchir. Enfin, je veux dire, ça fait des mois qu'on y réfléchit et que les solutions, elles existent. Et comme souvent, les solutions, elles arrivent par le terrain, elles existent par le terrain, elles sont testées sur le terrain. Et on attend, quoi. On est dans une attente qui est désastreuse parce qu'on va probablement se retrouver dans des impossibilités pour énormément de gens de continuer ce métier.
Toujours des prêts exagérés, hein, ni être parano ou aller au-delà de propos sains. Est-ce que quand même on n'a pas une forme d'impression là qu'on veut punir des gens? Alors je ne sais pas si on veut punir les gens de la culture, les gens qui font des spectacles, les gens qui vont voir des spectacles ou les gens qui bougent tout simplement.
J'aurais un peu de mal avec. C'est pas que j'aurais du mal, mais en fait, j'ai pas envie d'aller sur le terrain du juste ou du pas juste, parce que c'est pas qu'on nous doit des choses ou que j'estime qu'on nous qu'on nous doit des choses, mais il faut reconnaître qu'on vit dans un modèle économique qui favorise pas forcément ni le gratuit, ni le partage, ni le lien, ni la possibilité d'exister d'un certain nombre de choses qui pourraient questionner, qui pourraient déranger, qui pourraient être des formes de remise en cause aussi de ce que ça peut être que la parole, même la parole politique, parce que le théâtre en particulier, c'est quand même un endroit où on remet en cause la parole. Hein. Il suffit de lire des textes anciens comme ceux de Shakespeare ou des textes très récents comme ceux d'Angelica Liddell pour voir à quel point le théâtre est un endroit où on peut remettre en cause le pouvoir, sérieusement. Et je pense pas qu'on vive dans un modèle économique qui ait envie que ce genre de pratique-là puisse se développer, puisse offrir une forme de résistance à un certain nombre de décisions qui seraient autoritaires et qui seraient verticales, parce que même le Parlement se plaint de ne pas être assez consulté, donc il y a un moment donné où on est en droit de se poser des questions sur la possibilité de chacun de mener une existence consciente, en fait, complète. C'est quand même pas simplement de la maladresse ou de l'innocence, quoi. Il y a probablement derrière la construction d'un modèle économique dans lequel le spectacle vivant peut-être se rapproche davantage du spectacle que du vivant.
Quelqu'un a dit, je crois que c'est Jacques Attali, que le président de la République ou peu importe le gouvernement, quel qu'il soit, il n'avait plus maintenant les coudées franches pour imposer des politiques, mais qu'il fallait se fondre au moins dans l'Europe, sinon dans le monde, en fonction d'un certain nombre de contraintes imposées. Est-ce qu'en Europe, il y a d'autres pratiques par rapport à l'art, justement, par rapport au spectacle vivant, que ce que nous vivons, nous, en France? Ou est-ce que, en gros, tout le monde est en phase, j'allais dire pas métro-boulot, mais presque, piqûre, vaccin, et puis circuler, il n'y a rien à voir?
Non, il y a plusieurs pays, alors à des moments différents de l'année qu'on vient de connaître, mais il y a plusieurs pays qui ont ouvert leurs salles ou qui ont permis que ces choses-là existent, que des formes de culture existent. Actuellement, en Espagne, depuis plusieurs semaines, il est possible d'aller au cinéma, il est possible d'aller au théâtre. Et il ne me semble pas que l'ensemble du pays soit aujourd'hui dans une situation telle qu'ils doivent revenir à un confinement total et strict, parce qu'il y aurait eu tout d'un coup un déclenchement de... Non, il y a... En fait, c'est comme si on nous avait placé d'abord face à un choix un peu... binaire de la santé ou toute forme de pratique collective, et au fur et à mesure que les mois passent et que les gens y réfléchissent et y pensent, parce qu'il ne faut pas croire que la population n'a pas d'intelligence et n'a pas de conscience et d'analyse de ce qui est en train de se passer, on rentre dans les subtilités. On est tous prêts à admettre que demain matin, on ne va pas faire un spectacle devant 2000 personnes, ou qu'on ne va pas donner un concert au Stade de France avec 5 personnes au mètre carré. Ce n'est pas du tout ça les choses qui sont envisagées, mais entre ça et rien du tout, il y a quand même plein d'aménagements, de formes possibles pour que simplement on puisse se croiser dans un endroit autrement que pour gagner un salaire.
Alors, Simon Capel, j'allais te demander maintenant, est-ce que, pour l'avenir, tu as consulté les oracles?
Oui, alors, l'oracle, c'est une question très intéressante, puis c'est le titre du spectacle dont la première à huis clos va avoir lieu la semaine prochaine, donc de manière aussi assez étrange, et puis c'est la seule date actuelle du spectacle, donc c'est un moment vraiment à la fois urgent, pressant pour nous, et puis extrêmement, extrêmement trouble. Mais la question de l'oracle, pour moi, elle m'a beaucoup occupé ces derniers temps, parce qu'un oracle, c'est une chose assez simple. En fait, c'est une pratique qui avait lieu dans beaucoup de sociétés, de cultures. C'est une pratique de divination, en fait, mais qui n'est pas simplement une pratique... c'est pas de la voyance, en fait. C'est aussi une manière d'essayer de comprendre quel est le rapport qu'on peut avoir au futur, et qu'est-ce que la parole, dans la relation qu'on peut avoir au futur, peut prendre comme place. Un oracle, c'est simplement proposer une option par la parole, la verbaliser, et puis face à cette option, on est placé dans un choix d'action. Et c'est des choses qu'on traverse tout le temps, en fait, en démocratie. La parole des uns ou des autres, un sondage, par exemple. Si on vous dit plus d'un an à l'avance que... pour telle élection, les, les choses sont déjà pliées entre un choix ou l'autre, en fait, ça détermine déjà énormément d'actions. Peu importe que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. C'est-à-dire que ça place déjà l'ensemble des actions dans un champ particulier. Et c'est ça qu'on on va interroger dans ce spectacle, et notamment sur des questionnements liés aux violences subies par les femmes et la manière dont la parole a pu se libérer à cette occasion. Et on va interroger avec ce spectacle la possibilité pour la parole de déterminer des actions et de trouver des formes de réponses collectives dans le temps de la représentation.
Alors cette représentation de jeudi 1er avril à 19h, je pense qu'elle sera publique pour les personnes qui veulent voir sur Internet cette retransmission.
Oui, c'est ça. C'est ce que le gymnase met en place. La captation qui sera faite la semaine prochaine sera diffusée le jeudi 1er avril à 19h.
Voilà, donc sur le site du gymnase, hein, gymnase-cdn.com, où vous pourrez avoir accès à ce programme et puis aux modalités de cette retransmission. Donc bien sûr, on vous souhaite de retrouver très vite un large et grand public devant vous, face à vous ou parmi vous, comme vous voulez. Peut-être qu'il y a des formes aussi à retrouver de convivialité. En tout cas, on vous souhaite bon vent et puis aussi pour ce spectacle, un beau succès, Oracle.
Merci.
Au revoir. Merci, Simon René Capelle.